noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Ni noir ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Oh yes.
Bon mardi tout le monde. Bienvenue dans ce dernier mardi de Ni Noir Ni Blanc.
Hey, toi, là.
Il reste 4 jours. Ça, je dis ça parce que
c'est pas des décomptes de Noël. Là.
Mais
c'est
non,
pas
c'est pas un décompte positif.
C'est pas un décompte positif.
C'est vraiment pas. C'est pas un décompte avant la nouvelle année. Là. C'est un décompte avant la fin de Ni Noir Ni Blanc. Mais voilà, nous sommes avec vous encore une fois aujourd'hui jusqu'à vendredi avec de très bons sujets d'ici là. Ne vous en faites pas. On a une émission un petit peu spéciale aujourd'hui.
Ouais, c'est parce comme 2 gigasujets.
Exact. On a 2 sujets seulement pour l'émission au complet. Alors, vous avez compris que le courrier du cœur va durer 1 heure encore une fois, mais c'est parce que le sujet est trop gros pour en faire seulement une demi-heure. Alors, soyez avec nous dès 11h pour le courrier du cœur. La question qu'on va vous poser, hier, on a fini l'émission et Guillaume parlait du fait d'être direct en amour.
Ouais. Hein?
Est-ce que c'est toujours bon d'être direct, de dire les choses sans passer par 4 chemins? La question qu'on va vous poser aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de dire à votre conjoint ou à votre conjointe?
Là, c'est sûr que ça, c'est du hot stuff. Là. Donc,
oui.
Là, on veut du croustillant, n'est-ce pas? Et des choses que vous n'avez pas réussi à dire. Là.
Des confidences.
Là, on est dans les confidences, on est un petit peu dans les aveux. Soyez anonyme.
Voilà.
Changez votre nom, votre perruque, tout ce que vous voulez.
Puis votre conjoint votre conjointe n'écoute pas,
ben
probablement.
Non.
Changez votre nom si vous voulez, effectivement. Faites ça anonyme. Mais c'est la question qu'on va vous poser. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de dire à votre conjoint ou votre conjointe? Est-ce que c'est qu'un morceau de vêtement ne lui fait pas bien? Qu'il ne fait pas bien l'amour, par exemple, que vous n'aimez pas sa belle famille. Plein de choses comme ça qu'on garde des fois pour nous parce qu'on ne veut pas blesser les autres.
Ou quelque chose que vous avez fait que vous ne voulez pas dire.
Oh, très bon point aussi, je n'avais pas pensé à ça. Alors, dès 11h, soyez avec nous. Mais d'abord, un autre gros sujet qui va durer 1 heure parce que sincèrement, j'ai l'impression qu'on va avoir beaucoup d'histoires par rapport à ça. Vous avez peut-être vu passer cette nouvelle que Quentin Tarantino a dit qu'il n'avait jamais donné une scène de sa fortune à sa mère.
Ouais.
Pourquoi?
Ouais.
Parce que sa mère l'avait un petit peu découragé de faire carrière dans le cinéma lorsqu'il était jeune. Je vais le citer. Il a dit « Ma mère a mal pris le fait que je ne travaillais pas bien à l'école. Elle me critiquait pour les petits scénarios que j'écrivais à l'époque en disant « Cette petite carrière de scénariste que tu penses pouvoir avoir, c'est carrément fini. » Et finalement, Quentin Tarantino est devenu celui qu'on connaît aujourd'hui.
Le fameux Quentin.
Fortune, exact.
Ouais.
Et il n'a jamais donné une scène à sa mère, sauf une fois pour l'aider à payer de l'impôt, je pense. Mais autrement que ça, il ne l'a jamais aidé pour quoi que ce soit. Et donc, on peut penser que sa mère n'est pas vraiment sur son testament non plus, si jamais il fallait qu'il meure avant elle.
Oui, probablement pas. Là.
Et ça nous a amené à parler justement des testaments et des héritages, plus précisément.
Oui, puis on va prendre le temps de bien, je dirais, déballer le sujet, parce qu'il y a plusieurs sous-sujets impliqués là-dedans, puis comme on a du temps, ils sont tous permis, ces sujets-là, puis on va juste vous inspirer un petit peu sur dans quel axe ça peut aller.
Exactement, parce qu'il y a plusieurs points de vue par rapport aux héritages qu'on laisse à nos enfants. Tu as un nouveau courant là, qui semble prendre beaucoup, beaucoup de place dans la société qui dit « Laissez rien à vos enfants, dépensez tout de votre vivant, profitez de la vie ». Et c'est une espèce de nouveau courant un peu qui provient un petit peu des milléniaux, j'ai l'impression, là, qu'on veut profiter de la vie, qu'on veut avoir du plaisir, qu'on veut avoir une balance entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et c'est un petit peu eux autres, je pense, qui ont parti cette idée-là qu'on devrait tout dépenser notre argent de notre vivant, puis nos enfants, bien, ils s'arrangeront avec leur propre vie à eux. Il fut une époque, par contre, où c'était très important de laisser de l'argent à nos enfants. En fait, les parents travaillaient toute leur vie pour ensuite laisser un certain confort à leurs enfants lorsqu'eux-mêmes seraient décédés. Alors, il y a plusieurs visions par rapport à l'héritage qu'on peut avoir. Et parmi toutes ces visions-là, il y a aussi celle qui dit ben, si mes enfants ne correspondent pas à mes attentes et à mes critères au courant de leur vie, je ne leur donnerai pas d'argent non plus. S'ils ne me visitent pas aussi souvent que je voudrais qu'ils me visitent, s'ils ne prennent pas soin de moi alors que je vais être seule dans un CHSLD, bon, pour plusieurs raisons.
Oui.
Il y a des parents qui vont déshériter les enfants pour des raisons qui leur appartiennent. Et d'ailleurs, je vais vous dire tout de suite la question qu'on va vous poser avant de déballer un petit peu plus ce sujet avec Guillaume. La question qu'on va vous poser, c'est seriez-vous capable, dans une circonstance particulière, de déshériter vos proches? Seriez-vous capable de modifier carrément votre testament en disant « À cause de cet événement précis, je déshérite mes enfants, mes proches, mes frères, mes sœurs. C'est terminé. Je donne tout à des œuvres de charité ou à une de mes amies ou quoi que ce soit. »
Ça peut être à cause d'un événement ou tout simplement le fait qu'on ne sent juste pas à l'aise de donner pour différentes raisons. Cet héritage-là.
Exactement. Puis on en parlait d'ailleurs en réunion tantôt. Ouais. C'est pas nécessairement parce que votre enfant vous a fait quelque chose personnellement, mais ça peut être parce que vous considérez que votre enfant ne sera pas capable de gérer tout cet argent-là. Et c'est un petit peu ça que tu disais tantôt, Guillaume.
Ouais.
Et toi, tu disais, bon, évidemment, nous deux, on n'a pas d'enfant présentement. C'est pour ça que votre point de vue, les auditeurs, va être très intéressant. Mais tu disais, j'ai pas travaillé toute ma vie pour laisser un montant d'argent à quelqu'un qui sera pas capable de le gérer puis qui va le dépenser en une semaine comme ça.
Oui. Ben, moi, je trouve qu'elle est très importante, cette question-là d'héritage, parce que ça parle de ta relation avec la vie, ta relation avec ta descendance, ta relation avec c'est quoi le projet de société auquel tu veux contribuer avec ta propre vie, ce que tu as créé, ce que tu veux léguer, c'est quoi la poursuite pour toi. Tu sais, les humains aiment beaucoup la notion d'immortalité. Hein. Et l'immortalité, c'est très séduisant parce que ça peut se matérialiser de plusieurs façons, en ayant des enfants et par l'éducation et par la transmission de ressources pour faire perdurer un projet, une mémoire, une philosophie, des valeurs. Donc, l'argent, c'est des moyens de continuer à faire vivre quelque chose qui vient de toi. Et là, les humains, ben, ils veulent savoir qu'est-ce qui va rester de moi dans ça. Donc, c'est pas seulement une dépense, ça s'appelle un patrimoine. Et dans notre culture, on est moins axé sur le patrimoine parce que c'est moins familial maintenant que d'autres cultures où le patrimoine est très, très important. Et il y a des cultures qui font des héritages, mais non seulement la fortune est très grande, mais les critères pour en bénéficier, c'est extrêmement serré. J'ai déjà parlé de la culture juive où il y a beaucoup de juifs qui ont des grandes fortunes puis qui vont dire à leurs enfants, ben c'est super, j'ai une belle nouvelle pour toi, j'ai 100 millions. Fait que là, waouh, c'est super. La mauvaise nouvelle, c'est que tu peux pas y toucher. Fait que c'est à toi, mais tu peux pas dépenser ça vraiment.
À quoi ça sert que ce soit à moi de bord?
C'est pour de l'extrême urgence, c'est pour la lignée, c'est pour le patrimoine familial. On pense à la communauté, on pense à notre famille, on pense à 2-3 générations. En quoi cet argent-là va pas juste servir à toi, ça va servir à toi, tes enfants et mes petits-enfants. Il y a cette mentalité-là de ressources. Au Québec, on a moins ça. C'est définitivement moins ça. C'est vraiment comme de l'argent là avec une opportunité. On n'a pas l'idée tant que ça de la descendance puis du projet de la
du patrimoine en tant que tel. Ça, c'est vrai, effectivement.
Oui. Et donc, des fois, on se surprend que c'est comme « Ah, comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des grandes fortunes familiales puis là, il y en a qui ont des héritages qui sont très, très avantageux. » Puis là, on dit « Ah, mais là, c'est pas juste. » Parce que ça sort pas de nulle part, cet argent-là. Ça prend des générations et des générations et des générations pour créer une fortune, pour créer ne serait-ce que l'éducation ou le mindset pour créer cette fortune-là. Et donc, c'est pas réaliste de dire que, il y a des gens qui ont de l'argent et là, c'est injuste, c'est un privilège non mérité, comme si de l'argent, ça sort de nulle part. De l'argent, ça ne sort pas de nulle part. Il y a de la pensée, il y a du travail en arrière. Il faut sortir de l'instant présent pour comprendre la lignée de cet argent.
Et d'ailleurs, tu sais qu'une des idées qui avait été déjà amenée par certains groupes politiques, c'était de commencer à mettre de l'impôt sur les héritages que tu reçois. Fait que, disons, tes parents meurent, tu reçois, je sais pas, un montant comme ça, tu reçois 100 000, mettons.
Ouais.
Ben, c'est considéré comme un revenu, alors on devrait imposer ce montant-là. Il y a des gens qui disaient que ça devrait être comme ça. Et tu as plusieurs personnes qui ne défendaient pas cette idée-là, puis qui disaient, comme toi, c'est de l'argent qui a déjà été imposé. Je veux dire, mes parents ont travaillé pour avoir cet argent-là, puis ils ont été imposé sur ce montant-là. On ne va pas doublement imposer ça. Là.
Mais c'est vraiment être déconnecté de la réalité, considérer qu'un patrimoine familial, c'est comme un revenu ordinaire. Ça n'a aucun rapport avec ça. Et moi, je suis absolument, évidemment, pas d'accord avec le fait d'imposer ça. C'est pas ce type d'argent-là.
Mais est-ce que c'est injuste? Est-ce que ça crée de l'injustice? Ben, c'est sûr, mais la vie est injuste en général. Je veux dire, il y a des enfants qui vont naître dans des familles extrêmement riches, qui vont avoir accès à la scolarité très élevée.
Oui.
Qui va avoir des privilèges que d'autres enfants nés dans des familles un petit peu moins riches n'auront pas.
Exact.
Fait que cette injustice-là se perpétue dans les héritages, ça c'est certain. Mais est-ce qu'on veut combattre toutes ces injustices-là puis commencer à dire tout le monde a le même salaire puis tout le monde vit sur le même pied d'égalité? Si c'est ça, c'est une moyen, c'est un moyen de travail à accomplir dans la société.
Ça s'appelle le communisme, ça s'appelle le socialisme poussé à l'extrême. Il y a moyen de le faire. D'autres sociétés l'ont déjà fait dans le passé. Ça fonctionne pas vraiment bien. Et oui, c'est important l'égalité d'opportunité, mais c'est impossible d'avoir une égalité absolue. On peut pas avoir des histoires égales, puis avoir une génétique égale, puis avoir une personnalité égale. L'égalité, c'est un rêve. C'est impossible. Ce n'est qu'inégalité. Puis ce qu'on veut, c'est la promotion de l'opportunité. Puis une des meilleures façons, c'est la promotion de l'éducation. L'éducation fait ça. Et ça, c'est important. Mais comme superficiellement, rebalancer des chiffres comme ça, c'est impossible. Ça ne fait pas état du tout de comment fonctionne l'évolution humaine au sens large.
On veut entendre vos histoires maintenant. On doit s'arrêter déjà pour la première pause de l'émission. Seriez-vous capable, dans une circonstance particulière, de déshériter vos proches? 514...
Pourquoi vous feriez ça?
Pourquoi? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On prend vos appels après la pause.
Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
On parle d'héritage ce matin. Quel sujet chaud, hein? Tu sais qu'il y a beaucoup de familles qui se brisent à cause d'une gestion de l'héritage et c'est infiniment triste.
Oui, parce que le sens est lourd en arrière d'un héritage. C'est pas juste de l'argent puis des biens. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de ressources puis c'est un symbole en plus.
Puis on dirait que des fois, la gestion de l'héritage fait sortir le côté le plus radin de certaines personnes, hein, qui sont prêts à piler sur les relations familiales pour aller sauver deux piastres.
Oui.
Ça peut être très, très difficile, la gestion de l'héritage. On a tous entendu des histoires d'horreur à gauche et à droite. Mais la question qu'on vous pose ce matin, c'est... On parle de l'histoire de Quentin Tarantino qui a toujours dit que parce que sa mère ne l'avait pas encouragé dans sa carrière de scénariste, il ne l'a jamais aidé à la hauteur d'un seul dollar au courant de sa vie, malgré toute la fortune qu'il a fait. La question qu'on vous pose ce matin, seriez-vous capable de déshériter vos proches? Est-ce qu'il y a une circonstance qui pourrait faire en sorte que vous seriez capable de retirer vos enfants de l'héritage? Allez jusque-là. On a hâte de vous entendre. On commence avec Marianne. Bonjour, Marianne.
Salut, salut.
On vous écoute, Marianne.
Ben, moi, je me suis fait déshériter.
Ah oui?
Oui, parce que ma mère, c'est une grosse manipulatrice, puis on lui doit tout, ça a l'air. Même si elle fait rien pour, on lui doit tout, le respect, même si elle respecte pas personne, puis qu'elle nous pile sa tête, puis qu'elle critique tout le temps, puis méchant à part de ça, elle s'invente des histoires, puis il faut la croire, même si on sait que c'est pas vrai. Puis un jour, ben, on est après la déménager pour la rentrer dans un CHLSD parce qu'elle veut pas, elle voulait plus bien, elle l'entend plus bien, elle a de la misère un peu. Puis moi, ça faisait 3 semaines que je la déménageais, puis elle était supposée de m'aider, puis elle m'a jamais aidé, puis elle a critiqué tout le monde qui l'aidait pas. Je disais, ben, elle fait tellement chier tout le monde, excusez le mot. Mais que le monde veut pas y aller. Fait que moi, ben, c'est ma mère, fait qu'il faut bien que je l'aide. Fait que je l'ai aidée pendant 3 semaines de temps, puis... Elle critiquait tout le monde, elle disait « j'aurais pas dû faire venir mon garçon en parlant de mon frère, et parce que c'est un ci, c'est un ça. » Puis ma sœur, ben c'est quasiment une putain, en parenthèse, là, parce qu'elle a eu malheur d'avoir 3 chums dans sa vie.
OK, puis, c'était quelqu'un qui avait des relations très, très difficiles avec ses enfants, de ce que je comprends. Là.
Oui, mais pas rien qu'avec ses enfants, avec ses amis, avec son mari. Mon père, on le trouvait un petit peu trop sévère, parce qu'on savait pas. Mais c'était ma mère qu'il boostait tellement qu'à un moment donné, il pétait les coches avec. Puis,
mais est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes la seule des enfants qu'elle a déshérité ou tout le monde a été déshérité?
Je suis la seule parce que j'ai osé y dire que... Ben, gros, j'ai dit carrément que si elle fermerait sa gueule, peut-être que ça irait mieux dans sa vie.
Et là là! Ouais, vous avez pris un risque, disons, qu'avec le type de personne que vous me décrivez, d'après moi, c'est pas un commentaire qu'elle a apprécié, là.
Non, elle l'a tellement pas apprécié qu'elle m'a foutu dehors.
Puis comment vous avez réagi? En fait, comment vous avez su qu'elle vous avait déshérité? C'est-tu rendu chez le notaire que vous l'avez su?
Non, c'est avec sa face qu'elle m'a dit qu'elle voulait plus rien savoir, puis que j'étais rien que bonne pour être d'avoir, puis en tout cas, je sais qu'elle l'a fait. Parce qu'elle a une tête de cochon, ce qu'elle dit, elle va le faire, puis elle m'a le laissé entredire, fait que même si les autres voulaient savoir si elle était capable de gérer son argent pour être capable de payer ses affaires, parce que mon frère, c'est lui qui s'occupait de ses affaires. puis
Marianne, merci. Marianne, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Vous donnez le ton pour ce sujet-là. Là, c'est clair. Hey, c'est quelque chose quand même. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est une femme qui avait beaucoup de problèmes avec ses relations.
Ouais,
là, qui peut-être.
Des petits enjeux.
Mais hey, c'est quelque chose quand même, là, te faire déshériter par ta mère. Puis tu le sais en plus, comme ça. Ouf, ça doit pas être évident. Vincent est avec nous. Bonjour, Vincent.
Bonjour, là. Vous tombez pile là, sur ce sujet que je suis en train de vivre. Là.
Nous autres, on fait ça, là, tomber pile sur les sujets.
Ah, je te dis une affaire, là, je n'ai là à côté, là, vous n'avez pas assez pour une heure. Là. Mais écoutez, là, moi, juste pour vous donner un message général, là, ma mère est d'héritier, mon frère le plus vieux. Là.
OK.
OK. Elle est d'héritier, là après la mort de mon père il y a 11 ans maintenant. Là.
Puis pourquoi elle a fait ça?
Parce que après la mort de mon père, là, lui, il voulait tout. Là.
Il voulait
partager là puis tout. Là, mais ma mère, je te dis une affaire, ma mère, là, qui était chef d'entreprise, là, tu sais, moi je suis italien là, puis c'était que s'occuper de la maison puis tout là, jusqu'à l'année passée, quand elle est décédée, elle vivait dans la maison là, de mon père puis tout, elle gérait toutes ses affaires.
Mais Vincent, juste pour que je comprenne, c'est qui exactement qu'elle a déshérité, votre mère? C'est votre frère seulement, c'est pas vous?
Non, c'est ma mère avec deux testaments. Après la mort de mon père, là, mon frère, il a écrit des lettres cinglantes, là, tu sais, il a même été accusé, là, que c'était qui a tué mon père, là.
OK. Bon, ben, parfait. Puis comment vous êtes senti, Vincent, quand vous avez su ça?
Je te dis une affaire, là, c'est blessant, là,
ouais.
Avec tous les sacrifices qu'elle a faits, que mon père puis ma mère a faits, OK? Être traité de même, là, je te jure, là.
Ça fait
si
mal.
Si jamais
hein?
Un de mes enfants fait la même affaire, ouais. Là, je te dis une affaire, là, OK, j'hésiterai pas deux fois. Juste pour te dire, là, ma mère a passé le cancer à travers tout ça, le cancer des seins à travers tout ça, là. Puis quand elle a décédé, là, elle est morte, OK, de mort assistée, là.
Mm-hmm.
C'est elle qui a décidé, là. C'est elle qui a choisi, là.
Oui, je comprends. Vincent, on sent vraiment l'émotion dans votre voix. En tout cas, merci beaucoup d'avoir appelé. C'est pas évident. Puis tu vois que c'est blessant très, très profondément. Là. On l'entend, mettons.
C'est tellement blessant que c'est difficile à suivre aussi.
Ben non, c'est ça. José est avec nous maintenant. Bonjour, José.
Oui, bonjour.
On vous écoute, José.
Oui, ben pour moi... Je trouve que l'héritage de nos jours, c'est pas un acquis.
OK.
Les parents ont donné. Les enfants, ils doivent redonner à un moment donné. Beaucoup d'enfants oublient leurs parents.
OK.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Ils boudent.
OK.
Pendant des années, sans raison valable.
Mais José, parlez-nous de votre expérience personnelle à vous, s'il vous plaît.
Ben, c'est
justement... Oui, c'est ça. Vos enfants vous ont boudé, c'est ça?
Le boudage... sans raison valable.
Mais concrètement, c'est quoi? Ils ne vous parlent plus depuis des années, c'est ça?
Depuis des années.
OK. Puis est-ce que vous avez tenté, vous, d'entrer en contact avec eux? Oui.
J'ai fait des démarches en médiation. J'ai fait des démarches. Et il y a une génération où ce que ça bloque.
Puis pourquoi ils ne vous parlent plus?
Pour moi, c'est ce que je vois. C'est que dans le temps, où même nous, notre génération, on respectait nos parents.
Mais pourquoi ils ne vous parlent plus, José? Il doit y avoir une raison. Pourquoi ils ne vous parlent plus, selon vous?
Si tu penses à quelque chose?
Je ne pourrais pas aller jusque... C'est un peu... C'est sans raison valable, je vous dirais.
Mais c'est difficile mais
parfait,
à croire.
Mais mettons qu'elle n'est pas valable, c'est quoi la raison?
Oui.
C'est un conflit intergénérationnel.
OK. Plus spécifiquement,
oui. Alors, c'est des opinions qui sont divergentes.
Okay. Des opinions sur des sujets chauds. On peut dire ça comme ça?
Vous êtes chicané sur des sujets.
Oui.
Okay.
Et je veux dire, vous savez, tourner la page dans la vie, ça existe.
Mais j'ai l'impression, José, évidemment, vous ne voulez pas me donner beaucoup de détails, mais j'ai l'impression que ce que vous avez pu dire ou vos propos ont dû être assez blessants là, pour qu'ils refusent de vous parler comme ça. Ça se peut-tu?
Non, pas réellement, non. Ça n'a pas été blessant.
OK. Bien, c'est difficile à croire parce qu'on ne peut pas avoir de détails. Merci beaucoup d'avoir appelé. Là, si vous voulez appeler puis vous confier comme ça, c'est le fun d'avoir des informations puis d'avoir des détails. Là,
non,
parce
mais
que...
c'est-tu quoi? Mais... Ça donne quand même le ton à quel point c'est délicat.
Ça,
c'est
oui.
Comme on veut en parler, mais il s'est comme passé quelque chose. Je ne sais pas qui est responsable, mais en tout cas, on n'est pas content. Tu sais, quand tu es fâché contre quelqu'un ou quand la relation est détériorée, tu ne peux plus
tu peux plus mettre ton patrimoine entre les mains de cette personne-là. Ça prend des relations qui fonctionnent bien. Et là, c'est ça qu'on sent. Hein. Depuis le début, on voit que les relations sont effritées. Il y a eu des conflits.
Les gens veulent pas tellement entrer dans les détails des conflits non plus. On sent que c'est encore très chaud, très, très blessant peut-être.
Ouais,
là.
Mais je pense qu'on est un petit peu dans le cœur du sujet.
Exactement.
Sur qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, souvent il y a des enfants qui l'apprennent chez le notaire. Que c'est comme son
pouce sur le testament.
Ça n'a même pas été discuté. Ça veut dire qu'il y a des conflits là, qui traînent depuis des mois ou des années. Eux autres, on se dit, oh, on se croise les doigts qu'il n'y ait pas de répercussions. Puis, oups, on l'a d'en face quand le décès est arrivé. Puis, quand on est toute la famille ensemble devant le notaire, on fait, ah, ça, c'est pour toi. Ça, t'es pas là. Ça, il n'y a rien.
Méchante claque d'en face.
Les émotions, les discussions, l'évitement, ça va aller jusqu'à la fin. L'évitement va aller jusque chez le notaire. Ça va vous courir après, c'est sûr. Donc, puis vous voyez ce que ça donne. On ne comprend pas la moitié de ce qui se passe là au téléphone. On est comme, mais qu'est-ce qui se passe? On ne veut pas y aller. Donc, je pense qu'il y a comme un exercice méta là, dans cet exercice-là qu'on fait là, live.
Oui, c'est ça.
Vous voyez, moi, c'est dur sortir le morceau. Imaginez.
On a la preuve. Hein?
Puis c'est des gens anonymes. Nous autres, on s'en fout. On n'est pas concernés par ça. Ça a de la misère à sortir le morceau, exprimer quelque chose vraiment précis. Alors, imaginez quand tes émotions sont impliquées avec les personnes impliquées.
C'est vrai que c'est de l'évitement dans toute sa splendeur là, qu'on vit depuis tantôt. Bon,
vous avez ça live, là.
Prochain appel, c'est Sylvain. Je pense que Sylvain a déshérité son fils. Okay. Alors, ça risque d'être un petit peu plus clair. Bonjour, Sylvain.
Oui, bonjour, ça va bien?
Très bien. On vous écoute, Sylvain. Vous avez déshérité votre fils?
Oui, ouais, c'est ça. Je le voyais jamais. Quand je le voyais, j'essayais de le confronter pour savoir c'est quoi le problème. Là. Je comprenais pas. Là. Je l'ai jamais frappé. Je n'ai jamais rien fait, là. Quoi que ce soit, là, qui aurait pu faire...
Il a coupé les ponts avec vous, c'est ça?
Oui, ben, je pense qu'il y a eu les montages aussi de la mer, c'est un bord, là, puis rien de fondé, puis là, ma famille me disait, ben, laisse les faire, même qu'ils vieillissent, ils vont comprendre, puis tout. Ben, là, il est rendu à 31 ans, puis il fallait avoir compris plus. J'ai demandé à un moment donné, là, j'avais pas de nouvelles de lui, il est arrivé un paquet d'affaires, puis... Là, j'ai réussi à avoir contact avec quand il a eu son premier enfant.
Mm-hmm.
Puis je l'ai vu, puis là, après ça, mais c'était compliqué de venir une fois par année chez nous avec les enfants. Une fois, il venait, mais c'est parce qu'il avait été magasiné ailleurs, puis il arrivait vers l'heure du souper, ben, au bout d'une heure, il repartait. Et aussitôt que ça mettait les pieds à terre dans le driveway, ça avait déjà hâte de repartir.
Fait que pour vous, Sylvain, c'est vraiment le fait qu'il ait coupé le contact avec vous puis qu'il ne veuille pas avoir une relation avec vous qui a fait en sorte que, ben, tant qu'à ça, si tu n'as pas de relation avec moi, je vois pas pourquoi je te mettrais sur mon testament, c'est ça?
Non, à chaque fois que j'essayais de le confronter, il prenait la fuite tout le temps. J'essayais de comprendre le pourquoi il y avait une attitude de même. Puis moi, avoir une relation père-fils et père-petit-fils comme ça, je trouve que c'est complètement toxique.
Est-ce que vos petits-enfants sont sur votre testament?
Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes petits-enfants sur le testament.
Bien, voyez, bon. C'est la meilleure décision, je pense, que vous pouvez prendre. Si vous n'êtes pas d'accord avec la relation que vous avez avec votre fils, vos petits-enfants, eux, n'en souffriront pas au moins. Sylvain, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Okay. C'est un beau compromis, ça, par exemple.
Je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais.
Ça, là, c'est une situation qui arrive souvent, c'est-à-dire la distance qui se crée entre les membres d'une famille. Puis des fois, là, ça part d'un petit malaise, mais si tu l'évites, le sujet de conversation, si tu évites ce malaise-là au cours des mois et des années, tu as une distance qui se crée telle qu'à un moment donné, on se sent très loin, mais on n'est plus capable de retracer c'est quoi la source. C'est plus conscient, on le sait plus, je sais pas, je suis juste comme loin de toi, puis je suis juste mal, il y a comme une distance entre nous, je sais pas trop qu'est-ce que je vais te dire. Puis toi, si tu me confrontes, j'aurai rien à te dire, je le sais pas, donc je vais encore plus éviter toi mm-hmm. et le sujet. Donc ça, on part à la dérive l'un de l'autre. Donc c'est pour ça que c'est facile de prendre des dérives qu'on n'est pas capable de se suivre à travers nos émotions, à travers ce qu'on vit. La communication, on le dira jamais assez, il faut sélectionner des bons sujets de conversation. Puis après ça, il faut y faire face en équipe. Pas faire ça, voyez ce que ça donne. Ça fait des familles ou des systèmes qui se désagrègent, puis on n'est même pas capable de trouver une cause.
C'est vrai.
C'est ça qui est grave. Quand il arrive un trauma, quand il arrive une raison claire, on dit, ben là, au moins, il y a quelque chose de clair. Mais quand c'est une dérive comme ça, puis lui, regarde, monsieur qui vient d'appeler, il est triste.
C'est comme son fils, il veut le voir, puis il sent que son fils veut juste s'en aller aussitôt. Fait qu'il se sent vraiment juste comme un devoir familial. Il se sent lui-même évité par sa propre descendance. C'est épouvantable, ça. Mais ça, ça se prévient avant. Fait que là, c'est sûr que là, on se concentre aujourd'hui sur l'héritage. Mais l'héritage, c'est comme l'aboutissement du legs, là. Fait que il faut s'occuper des relations pendant qu'on est vivant. Puis ça, et oui, c'est dur. Des fois, c'est extrêmement chiant. Ça prend beaucoup de conversations, beaucoup de communication. Puis sont toutes stressantes, ces conversations-là.
Oui, mais si la communication, c'était si facile que ça, on vivrait dans une société exceptionnellement
mais
parfaite.
Mais c'est toujours dur. C'est ça. Puis indépendamment des habiletés, ça va être dur. Émotionnellement, ça va être dur. Mais c'est sûr qu'avec plus d'habileté, là, tu vas avoir plus de succès. Mais la difficulté va être là quand même.
On doit s'arrêter pour la deuxième pause de l'émission. Seriez-vous capable, dans une circonstance particulière, de déshériter vos proches, vos enfants? On veut entendre vos histoires personnelles. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir ni Blanc. Avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
Ça peut faire mal, cette question-là, hein, parce que ça rebrasse évidemment des histoires qui sont hautement, hautement émotives. Et surtout, oui. Ça nous amène à se questionner profondément sur c'est quoi notre lien avec les membres de notre famille.
Oui.
Parce que la question, c'est
exactement.
Seriez-vous capable de déshériter vos proches, vos enfants?
Oui.
Il faut que tu aies fait quelque chose de grave en maudit pour être capable de dire « Moi, je vais mourir là et il n'y aura plus rien de moi. Ça va être terminé, je ne lègue rien parce que ma relation s'est tellement effritée au fil des années que le lien va se terminer frais de sec comme ça. » C'est quand même, là, c'est vraiment quelque chose.
Bien, je pense qu'il y a une question de lien puis une question de se demander cet argent-là que j'ai, mettons que je veux léguer, va servir à quoi? Est-ce que je suis à l'aise avec l'utilisation de ça? Tu sais, je te donne un exemple extrême. Mettons, j'ai un enfant qui part une business de tabac ou d'armes à feu. Je vois pas là, comment je vais être excité alors que j'ai passé comme l'entièreté de ma vie à travailler sur les relations humaines puis la communication. Comment je vais donner mon argent, tout mon patrimoine au complet, tout le fruit de mes études, mes efforts, de mon amour du travail puis de ma philosophie de vie à ça, juste sur le prétexte que c'est comme il y a ma génétique dans mon fils ou ma fille. Je pense que c'est très complexe comme question. Puis on peut avoir une bonne relation, mais il faut se dire, ce patrimoine-là, il sert à quoi? Il faut penser. Moi, personnellement, très personnellement, je pense pas juste à, mettons, mon enfant, mon futur enfant. C'est à quoi va servir ça pour ma descendance, mais pour la société. Un humain qui est efficace, un humain qui est heureux, qui a du sens, va penser à lui, son propre bonheur, sa propre utilité. Mais justement, il faut penser à c'est quoi sa contribution dans la société, puis comment moi, avec mon patrimoine, je vais aider ma descendance à être fière d'elle-même, puis redonner aussi à la communauté.
Puis donc, tout en gardant en tête qu'il ne faut pas que ça vienne nuire à mes valeurs personnelles.
C'est ça.
C'est pas évident. Là.
Et aussi, c'est de dire, parce que ton enfant, c'est pas toi, c'est pas un copier-coller de toi. C'est un enfant qui est différent, qui va faire des choix différents. Son chemin à lui ou à elle. Puis on sera pas d'accord avec tout. Donc on peut pas dire moi je donne ma fortune si je suis d'accord avec 100% de tous les choix. C'est comme ben là. Où est la part de diversité, d'opinion puis de façon de penser? C'est pas réaliste non plus. Et donc, je pense qu'il y a un réel défi là-dedans, mais ce défi-là se résout en ayant des relations qui sont positives, en parlant justement.
Allons parler à Nathalie maintenant. Bonjour Nathalie.
Oui, bonjour. Donc, moi, je n'hésiterais pas à le faire si j'étais placée dans les mêmes situations que ma mère. Ça remonte à facilement 50 ans. À la naissance de son fils aîné qui, dès son adolescence, a commencé à parler contre notre mère.
C'est votre frère, en fait, c'est ça?
Oui, c'est mon frère.
Okay.
Donc, ce qu'elle faisait, c'était jamais suffisant. Elle a subi du harcèlement. Et plus tard, dans ma vie adulte, à chaque fois que je le rencontrais, c'était toujours de dire que ma mère était une ci, ma mère était une ça, qu'elle l'avait battue enfant, etc. Là, à peu près 10 ans, moi, j'ai coupé les ponts avec lui. Ma mère aussi. De toute façon, il la voyait une fois ou deux par année. Donc, pour elle, ça n'a pas été une grosse perte. Et quand elle a su qu'elle combattait les trois cancers, en fait, c'est là qu'elle m'a dit qu'elle déshéritait mon frère Il n'y avait plus de relation possible avec lui.
Ouais.
Comme vous disiez, à un moment donné, oui, c'est beau, c'est la même génétique, mais en quelque part, elle était extrêmement malheureuse de sa relation avec lui. Ouais, elle en souffrait.
Est-ce que lui, donc, il sait au moment où on se parle ou il risque de le savoir chez le notaire?
Ah, mais elle est décédée il y a 6 ans.
OK, okay. Fait qu'il l'a su déjà. OK.
Oui, oui, il l'a su. C'était même au point où ma mère ne voulait même pas que son nom apparaisse là, dans le journal.
Comme comment il a réagi, hein?
J'en ai aucune idée.
Non, c'est ça. Vous
ne l'avez pas parlé. Pas ouais. Tout, là. Okay. Ouais.
Non, il n'y a plus aucun contact. Donc, je pense que placé dans les mêmes situations, j'aurais probablement le même réflexe de déshériter mon fils.
Ben, vous avouez que c'est une assez bonne raison. Là, ça.
Ben là, on parle vraiment de dégradation relationnelle. Mais tu sais, c'est ça. C'est, le nerf de la guerre pour les humains, là, ce sont les relations. C'est quelque chose qui est vivant, de relation. Il faut entretenir ça tout le temps. C'est vraiment pas un cruise control. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est beaucoup d'énergie. Mais c'est ce qui fait en sorte qu'on est capable de rester en équipe ensemble. Puis justement, on est capable d'échanger des ressources puis avoir des objectifs communs. Puis c'est un petit peu ça, le sentiment qu'il faut avoir.
Je vais te lire un texto qui résume très bien un esprit de vengeance d'un père envers ses filles. Quelqu'un nous écrit « Nous nous sommes fait déshériter par notre père, ma sœur et moi, après le divorce de nos parents. Mon père était fâché contre ma mère à cause du divorce et il a décidé de nous déshériter. Enfant modèle, pas de drogue, sportive, on a bien réussi. Même après 10 ans de son décès, le couteau est encore difficile à retirer de mon dos. »
Mais j'ai de la misère à comprendre, honnêtement, rationnellement, pourquoi...
Si j'ai bien compris,
tu punis tes filles que t'aimes, t'as une relation avec tes filles pour te venger de la mère. Il y a quelque chose, là, soit que je n'ai pas compris, soit qu'il m'en manque une.
Probablement qu'il savait très bien que la mère de ses filles trouverait ça épouvantable et qu'elle finirait par se sentir coupable, elle, que ses filles soient déshéritées à cause de sa relation avec son... Tu sais, tu comprends? C'est très twisté, là, c'est vraiment... Mais lui, il se dit, pour me faire mal à cette femme-là, je vais m'attaquer à ses enfants, c'est ce qu'elle a de plus précieux. Tu comprends? J'imagine que
c'est aussi
ça,
ses enfants.
Je comprends pas.
C'est ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher pas s'entendre avec les membres de sa famille. C'est pour ça que je reviens beaucoup avec l'idée de attention aux liens biologiques. On peut pas faire ce qu'on veut avec ça. Il y a toujours une espèce de backlash. Ça te revient en face à un moment donné. Puis oui, il y a des relations qui sont, on va dire, toxiques ou pas positives. Puis c'est vrai qu'il faut garder des distances qui sont sécuritaires. Mais se rebeller contre, ça a tendance à envenimer plus les choses. Puis même 10 ans après, comme le
ça y fait mal
ça
encore.
Ça y fait mal encore.
Ouais.
Ça disparaît pas ces liens-là biologiques qu'on essaie de se braquer contre ou renier. C'est, on le paye.
Des blessures qui restent, ça, c'est clair. José est avec nous maintenant. Bonjour, José.
Oui, bonjour. Moi, je pense pas qu'un héritage est dû. On devrait pas attendre. C'est pas dû à personne. Mm-hmm. C'est moi, tu dépenses tout ton argent de ton vivant, puis il reste rien à tes enfants, c'est correct. S'il en reste, puis tu décides d'en donner à un parce que... T'es très bon lien avec lui, puis t'en as pas d'autres pantoute inexistant avec un autre. C'est ton droit.
Avez-vous des enfants, vous, José?
Oui, moi j'ai des enfants.
Puis comment vous allez gérer ça, vous, votre héritage?
Ben moi j'espère que vivre assez vieille pour leur donner de mon vivant.
OK.
T'sais, de lui en donner sans dire je vais donner un 100 000 $ de mon vivant, mais peut-être un 5 000 $ ici, si tu sais. Quand ils vont en avoir besoin, les aider de mon vivant, j'aimerais mieux ça que leur laisser à la fin quand je suis plus là, puis un gros montant. J'aime mieux le quotidien. Avec mes petits-enfants, c'est la même chose.
Puis est-ce que vous allez leur donner pour tous vos enfants à part égale ou vous allez plus en donner à
un? J'ai des très bons liens avec mes enfants, fait que oui.
OK.
Fait que c'est sûr que si j'aurais un enfant qui serait pas dans ma pantoute, je me dirais, je pense pas qu'il mérite, tu sais. Mais ça serait difficile de ne pas leur en donner. Mais je voudrais te faire part d'une histoire de ma mère. Ma mère, elle vient d'une grosse famille, puis il y a eu un héritage d'un de ses frères, puis ça s'est dilapidé, puis ça fait que ses frères et ses sœurs, ils ont pris un côté ou l'autre, fait que ça a divisé la famille. Mais ma mère n'a jamais eu d'argent, là. Je peux pas dire qu'elle nous en aurait laissé, mais elle a rien laissé parce que je pense qu'elle avait trop peur que nous, les enfants, on s'entende on se chicane à cause d'une certaine...
À cause du montant. Ben, c'est parce que ça arrive tellement souvent, Josée. Je comprends que c'est une inquiétude qu'elle avait probablement parce que combien de familles ont éclaté après la gestion d'un héritage. C'est vrai que comme parent, mettons que tu sais déjà qu'il y a certaines tensions au niveau de l'argent là, pour tes enfants. Quand vient le temps de faire ton testament puis de laisser l'argent, là, tu te dis, ils vont-tu vraiment se chicaner pour ça? Là? Vas-tu, moi, être responsable de l'éclatement de cette famille-là à cause de l'argent? Est-ce que je peux éviter ça, moi?
C'est quand même grave. C'est que c'est plutôt que tout le patrimoine que tu as ramassé, plutôt que de le donner avec confiance, tu fais, ah non, ils vont trop chicaner. Fait qu'on va le gaspiller. C'est quand même fou. Pense à
c'est
ça
vrai
deux
que
minutes.
C'est fou.
Là.
C'est vrai que c'est fou.
Ça n'a pas de bon sens. Mais... Je comprends la logique quand tu es pris dans cette situation-là. Plutôt que de créer plus de bisbilles et que l'argent soit flobé, gars, je vais le dépenser pour moi. C'est moi qui l'ai ramassé. Je comprends 100%. Mais comme projet social, ça n'a pas de bon sens. Le but de génération en génération, c'est tu fais le mieux comme personne, puis tu te rends le mieux possible dans cette vie-ci. Puis là, ce que tu n'as pas eu, ben tu essaies de le donner à tes enfants pour qu'ils puissent être mieux. Puis tu donnes tout le temps mieux au suivant, à la génération suivante. C'est ça l'idée d'une lignée. Tout le monde essaie de faire ça. Il y a des cultures qui peuvent mieux le faire que d'autres. Il y a des parents qui sont mieux le faire que d'autres, qui peuvent mieux le faire que d'autres. Mais il faut que tu l'aides en tête. On veut améliorer notre sort.
Mais si tes enfants ont exactement cette façon de penser-là, comme tu viens d'écrire, Guillaume, il n'y en a jamais de problème. Oui. Mais c'est quand tu as des enfants qui sont très individualistes, très égocentriques, qui ont l'argent en priorité dans la vie au-delà de toute valeur familiale. Là, tu dis, je vais-tu vraiment causer cette tempête-là après ma mort?
C'est parce que ça prend pas une logique d'héritage, ça prend une culture familiale
exactement.
De travail.
Voilà.
Ça part à autant zéro d'une vie. C'est pour ça qu'il faut s'inspirer d'autres cultures. C'est pour ça que c'est bon des mix culturels pour voir qu'est-ce qu'on a à apprendre de telle culture? Puis qu'est-ce que je peux apprendre d'autre d'une autre culture? C'est ça l'idée de la diversité culturelle. C'est qu'est-ce qu'on a à apprendre les uns des autres pour être le plus fort possible, rendre les enfants les plus forts possibles, puis ainsi de suite et ainsi de suite. Mais on pense, je veux les voir contents en train de dépenser de l'argent.
Mais les valeurs familiales, c'est pas donné à tout le monde d'avoir
c'est
ça.
C'est de
là.
Moins en moins
exactement.
La mode. On est beaucoup dans « moi, je mérite ça, moi, j'ai des droits, moi, je veux, je n'ai qu'une vie à vivre, moi, j'ai tous les plaisirs, plus de responsabilités.
Ouais. »
C'est ça la mode.
Moi, j'aime pas ça voir ma mère, fait que je la vois pas. Combien de personnes autour de vous ont aucune, zéro relation avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs? C'est énorme, là. Il y en a plusieurs.
Ben, c'est ça. Fait que là, en ce moment, on est dans cette mode-là, puis on va voir où est-ce que ça nous mène.
On doit s'arrêter pour la pause. Restez avec nous. Claudette est en attente pour au retour 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Seriez-vous capable de déshériter vos proches dans une circonstance particulière? On vous parle au retour de la pause.
Ni noir, ni blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
On continue à parler des héritages ce matin. C'est vraiment intéressant de vous lire en passant. Il y a plusieurs bons textos. Là. On va peut-être avoir le temps d'en lire et de discuter de quelques-uns.
Il y a plusieurs philosophies d'héritage.
Oh, oui, vraiment.
Comment attribuer l'héritage avec des ratios, des proportions différentes dépendamment des enfants. Et là, il y a toutes sortes de facteurs que les gens choisissent qui vont déterminer les pourcentages.
On y vient dans quelques minutes. D'abord, Claudette est avec nous. Bonjour, Claudette.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, vous parliez d'héritage et puis tout ça, là... Je crois qu'on serait capable, nous, de, au bout d'un certain temps, on va dire 10 ans, sans aucune nouvelle de notre fille, de pas laisser d'héritage à
parce qu'elle ne vous parle plus, c'est ça?
On n'a aucun lien maintenant.
Aucun.
Depuis un an, c'est frais, là, c'est tout frais. Là.
Depuis un an seulement?
Un an seulement.
Okay. Qu'est-ce qui est arrivé?
Oh, c'est une situation, mon Dieu, honnêtement, qu'on ne sait pas, qu'on nous dit. Elle s'exprime de façon en disant que c'est côté plus écoute. Okay. Qu'on n'aura pas été là, côté écoute envers elle depuis qu'elle est toute jeune. Mais elle a coupé les ponts avec tout le monde.
Okay.
Autant avec tout le reste de la famille, cousins, cousines, etc.
Puis est-ce que c'était difficile lorsqu'elle était jeune, cet enfant-là, ou c'est très récemment que c'est difficile comme ça? J'imagine que la communication est difficile depuis un certain temps.
Disons que la pandémie, ça n'a pas aidé parce qu'elle était plus du côté. Elle ne comprenait pas pourquoi qu'on n'était pas
du côté des complotistes, si on peut dire. Là.
Votre enfant est complotiste, OK, je comprends.
Ben, disons,
ouais.
Ça fait un gros mot, là.
Oui, je peux
mais, disons qu'elle nous laissait, tu sais, il aurait fallu aller de son côté.
Tu sais, de penser facile,
comme
ça.
Cette personne-là, puis ça, mais pourtant, on a discuté beaucoup là-dessus, mais c'est pas tellement ça qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas été là pour elle, et pourtant, on l'a tellement aidé que les deux bras nous ont tombés. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. On n'a rien vu. Mais on a bon en parler, même avec les proches autour de nous. Puis,
il y a peut-être un petit sentiment de victimisation qui s'est créé chez elle aussi, peut-être. Là. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, Guillaume. Là. Je pense que ça t'a...
Mais je dis autant au travail. Il y a toujours beaucoup de difficultés au travail, au niveau du travail, la télé, entre collègues, tout ça. Mm-hmm.
Fait que Claudette, ce que vous dites, c'est que s'il fallait que dans 10 ans, par exemple, vous ayez toujours pas eu de contact avec elle, vous seriez capable à ce moment-là de dire, bon, ben c'est terminé, je l'enlève de mon testament.
Bien, c'est ça, je me demande, c'est quoi la solution? Je sais pas si vous pouvez aider ce côté-là, mais je me dis, quand une personne a plus de contact avec toi, t'as essayé de toutes les façons de communiquer avec elle, puis elle veut pas.
Bon, mais là, c'est sûr, madame, là, c'est extrêmement difficile comme situation parce que le problème, c'est la vision du monde rigide d'une personne qui veut pas parler ou qui se sent victime ou qui sent que toute la vie et le monde est contre elle. Puis là, si en plus dans sa tête, elle a réussi à trouver des raisons dans sa vie avec vous passée, que là, elle est pas contente sur des choses floues comme vous avez jamais été là pour elle, ce qui est un énoncé flou, OK, qui est caractéristique d'un processus de victimisation. Là, ça prend une cause, OK? Là, première question, est-ce qu'il y a de la maladie mentale diagnostiquée pour votre fille?
Bien, c'est ça. Ce serait la première chose à savoir. Peut-être ça pourrait... en fait, peut-être que ça pourrait répondre à certaines questions. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment juste, je suis entrée parce qu'elle a dit la pandémie n'a pas aidé. Clairement, la pandémie a commencé. Bien, sa fille semble s'être rangée du côté d'opinion contraire à la science, disons-le comme ça. Puis évidemment, comme dans plusieurs autres familles, les liens se sont un petit peu effrités.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de maladie mentale, mais qu'il y a juste des circonstances qui ont fait en sorte que c'est terminé maintenant, tu sais.
Ben c'est sûr, tu sais, les circonstances feraient sortir quelque chose qui existe déjà. Aucun contexte fait créer quelque chose par magie dans le cœur de quelqu'un. Fait que la pandémie n'a pas créé des nouveaux humains. Ça fait ressortir des béquilles, des choses qui se trouvent déjà chez les gens. Et donc, là, apparemment, puis il y avait un problème avec cette personne-là. Donc, les conflits sont multiples. C'est pas seulement des conflits avec Claudette, c'est des conflits avec d'autres personnes de son entourage. Donc, il semble, il y a comme anguille sous roche, là. Il y a quelque chose d'un peu généralisé là-dedans. Je pense que ce qu'il faut faire, comme je le dis souvent, c'est de ne pas rejeter sa fille, garder une porte ouverte, mais prendre la distance appropriée, mais garder une porte ouverte, que ce soit des encouragements à ce qu'elle revienne vers vous éventuellement, mais encourager ça. Pas prendre des décisions hâtives, vraiment pas, parce que c'est un lien biologique, ça coûte extrêmement cher, mais je pense qu'on ne peut pas contrôler 100% de ce qu'elle va faire non plus.
Guillaume, pour les deux dernières minutes de l'émission, j'aimerais ça qu'on puisse lire quelques textos, puis tu me diras ce que tu en penses. Quelqu'un nous écrit « Ma sœur a l'impression qu'elle mérite plus d'argent à l'héritage de mes parents parce qu'elle est moins en moyen que nous, son frère et moi. » Qu'est-ce que tu penses de ça? Ceux qui pensent que parce que le revenu familial est moindre chez moi, plutôt que comparativement chez mon frère ou ma sœur, moi, je mérite plus d'argent pour équilibrer le tout.
Bien, c'est pas que ça. Elle mérite pas plus d'argent. C'est un choix de donner plus d'argent à un enfant qu'à un autre. C'est un choix qui est personnel. Est-ce qu'elle mérite plus? Non, le mot ne s'applique pas. Elle ne mérite pas plus d'argent. Mais est-ce que ça se peut que ce parent-là choisisse d'y en donner plus? Question, c'est comme, qu'est-ce qu'on veut renforcer exactement? C'est quoi le pattern que ça va indiquer aux autres enfants? Qu'est-ce qui est priorisé exactement là-dedans? C'est quoi le message là-dedans? Donc, c'est important de clarifier exactement ce qu'on veut renforcer avec des ratios. Je dirais délicat de vouloir compenser le fait qu'une personne ne fait pas exactement autant d'argent, puis là, ça devient la responsabilité de l'environnement. Donc, voilà. C'est ça que je dirais.
Et il y a deux autres situations aussi. On parlait tantôt des liens familiaux qui se sont peut-être brisés, puis qui par le fait même, on enlève certaines personnes de l'héritage. Quelqu'un nous écrit « J'ai déshérité ma sœur suite au décès de ma mère. C'est une personne complètement désorganisée. Je donnerai tout à sa fille, à elle, et elle décidera d'aider sa mère comme elle l'entend. Ouais. » Et si on prend exactement le même exemple que ça, ou un petit peu différent, quelqu'un nous dit « J'ai déshérité ma fille. Elle a coupé le contact avec moi en même temps. Je n'ai pas vu mon petit-fils depuis plus de 2 ans. Elle a toujours gardé contact avec moi uniquement pour l'argent que je lui donnais. Mmh. Alors, j'ai coupé le contact avec elle. Je vais donner tout l'argent à mes petits-enfants. Et eux décideront s'ils vont aider leur mère. »
Bien, je pense que c'est important de protéger le patrimoine. On a travaillé fort pour ramasser ça. On ne peut pas juste le mettre entre les mains comme ça. Là.
Merci d'avoir participé. Faut faire attention. Merci beaucoup. On doit s'arrêter pour la pause bulletin de nouvelles. Et au retour, on revient avec un courrier du cœur spécial 1 heure.